Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et cet été dans Mansplaining, j'ai décidé de discuter avec des hommes, tous différents, de questions de masculinité. Dans ces épisodes hors série, je leur propose de me raconter comment ils se sont construits avec les représentations de la virilité, s'ils ont réussi à s'en éloigner, et si oui, grâce à quoi. L'idée, c'est d'apporter quelques éléments de réponse à cette très grande question. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme en 2023 ?
Je suis Sikunya Kate, je suis un homme noir, cisgenre hétérosexuel, nord-parisien, de quartier populaire. Je suis auteur et réalisateur, et j'ai 32 ans.
Alors du coup, je voudrais qu'on reprenne aux origines de Sikunya Kate. J'aimerais qu'on parle de ton enfance et de ton éducation. Quel type d'éducation t'as reçu ?
Alors l'éducation qui a été la mienne, elle s'est plutôt faite au fond au quartier, vu que je sortais très souvent, j'étais plus souvent à l'extérieur que chez moi. Et c'est une éducation qui est propre à la survie. Et la survie dans les espaces que j'ai côtoyés, c'est ne surtout pas montrer de fébrilité, de potentielle vulnérabilité, au fond de ce qui était estampillé comme étant des faiblesses. Et c'était juste être une forme de masque absolument rigide. Et évidemment, ce masque-là, plus jeune en tout cas, il se déployait par exercer parfois un peu de violence. Un peu de violence pour confirmer le masque ou pour se défendre. Donc j'ai grandi dans un espace, le quartier, qui m'a poussé très tôt à ne surtout pas dealer avec mes émotions, quoi.
C'était quel quartier ?
C'était un quartier dans le 19e. C'est en gros Lemière, Petit, Ourc. C'était les trois quartiers sont ensemble. Et c'est précisément ce quartier-là, mais dans les années 90 et 2000. C'est-à-dire avant la gentrification, etc. Enfin, moi, quand je suis arrivé à Rue Petit, il y avait des squats, concrètement. Avant la rénovation. Et il y avait des squats, il y avait énormément de jeunes dont je faisais partie avec une permissivité assez dingue, quoi. On faisait beaucoup de foot, beaucoup de sport. On était vraiment en meute. Et très tôt.
Et est-ce que vous étiez que des garçons ou quelle était la place des filles là-dedans ?
Ah, que des garçons. Évidemment, il y avait des filles, mais c'était nos sœurs, nos cousines, elles étaient là dans le décor, mais on ne les fréquentait pas. On ne les fréquentait absolument pas. Donc oui, que des garçons dans un contexte de masculinité déjà bien ancré, très tôt, très jeune. Et évidemment, une masculinité propre au quartier. C'est-à-dire que, avec la distance et le recul, je me rends compte que la masculinité qu'on a construite dans les quartiers passe énormément par le corps. Parce qu'en fait, dans cette dépossession, dans cette pauvreté, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et donc, c'était vachement par le fait d'être performant physiquement. Que ce soit sportivement, que ce soit en sachant se battre, mais ça passait par là, quoi. Et uniquement par là.
Et à la maison, c'était quoi les valeurs qui t'étaient inculquées ?
Bah, à la maison, nous, on fait partie de cette génération qui avons développé une double personnalité. C'est-à-dire qu'à la maison, les parents ne savent absolument pas ce qu'on incarne à l'extérieur. Quand j'entends ce que j'entends en ce moment sur les parents doivent mieux éduquer leurs enfants parce qu'ils font des... Mais c'est vraiment un manque intellectuel incroyable. C'est un manque sociologique fou. Nous, à la maison, on était exemplaires. À la maison, on était exemplaires. Pour les religions, on faisait nos cinq prières. On était très dociles. C'est qu'à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'était pas parce que finalement, on était mal éduqués par nos parents. C'est à l'extérieur, on savait déjà, même si on pouvait pas le formuler de cette manière, on savait déjà ce qu'on valait aux yeux de la société. On savait déjà qu'on était parqué, on savait déjà que notre destin social était un peu écrit, on savait déjà que la seule manière de s'en extirper, c'était d'avoir une trajectoire exceptionnelle, d'être footballeur ou d'être rappeur, mais on savait déjà qu'on était un peu relégué, quoi. Et ça, on le sait très tôt. Très tôt, donc à l'extérieur, ce qui se joue, c'est une espèce de révolte qui ne dit pas son nom contre la situation qui est la nôtre au regard de l'État. Et c'est pas du tout en lien avec des parents qui nous éduqueraient mal, enfin, pas du tout, quoi.
C'est marrant parce que ce double visage, moi qui suis prof en lycée, notamment, j'ai exercé 9 ans à Roubaix, et pendant des années, je comprenais pas pourquoi mes élèves, qui parfois étaient très turbulents, étaient apparemment, selon leurs parents, des petits anges à la maison. Et vraiment, je pensais que les parents mentaient. J'avais pas compris ce double visage, en fait.
Ouais. Non, on est des anges, mais vraiment des anges, quoi. On est d'une docilité assez incroyable. Et en plus de ça, nos parents, peut-être aussi par le prisme de leur culture, sont peut-être plus durs encore que d'autres parents. C'est là l'angle mort de cette espèce d'analyse ou de non-analyse qu'on entrevoit en ce moment. C'est que nos parents sont extrêmement durs avec nous, ce qui fait qu'on est extrêmement docile à la maison, qu'ils ne peuvent pas soupçonner le moins du monde ce qu'on est à l'extérieur. Et ce qu'on est à l'extérieur, c'est vis-à-vis de l'État. C'est pas vis-à-vis du fait qu'on a mal été éduqué par nos parents.
Est-ce que les rôles, ils étaient genrés à la maison ?
Oui.
Ouais. Ça se représentait comment ?
Ça se représentait par le fait de pouvoir sortir à peu près quand je voulais, contrairement à mes sœurs. Peut-être aussi nourri par l'idée que j'étais moins en danger en tant que garçon que mes sœurs. Mais en tout cas, c'était clairement ça. C'était aussi un rapport aux tâches ménagères qui était quasiment inexistant pour moi. Et c'est à peu près tout. Après, il y avait évidemment la réalité économique d'une pauvreté écrasante qui faisait qu'il n'y avait pas d'avantage en termes financiers. Mais par contre, j'avais plus de liberté, ça c'est clair.
Et t'en parles dans ton documentaire, dans Le Noir, les hommes pleurent. Tu parles de tes parents un petit peu et tu expliques que tu n'as jamais reçu de câlins, que vous n'étiez pas du tout tactile. Alors c'est marrant, ça va presque à l'encontre du cliché qu'on peut avoir du père qui pourrait être dur et de la mère qui, elle, au contraire, serait très tendre. Donc toi, c'est quelque chose, t'as grandi dans une enfance où t'étais un corps, mais un corps isolé, même vis-à-vis de tes parents, en fait.
Ouais, et je me rends compte qu'on a tous été comme ça, toute ma bande de potes. C'est fou parce que je développe aussi un film sur cette question, c'est à la fois il y a la pudeur qui est propre à ces cultures africaines, subsahariennes, une espèce de pudeur qui fait que l'amour n'est pas dit explicitement, n'est pas démontré explicitement à travers le corps. Et moi, en tout cas, c'est avec le recul que je me rends compte de ça. Je pense que la langue maternelle, c'est la langue de l'amour par excellence. Et nous, on a grandi dans une époque, on a grandi à un moment donné où nos parents nous transmettaient pas forcément leur culture, leur langue maternelle, parce que ils avaient entendu, compris qu'il fallait pas qu'ils nous encombrent avec tout ça. C'était pas de l'espagnol, c'était pas de l'anglais, c'était du soninké, du bambara, ça pèse pas la même chose dans la danse géopolitique. Du coup, il y avait une espèce de scission à cet endroit-là. Et donc, on a grandi avec le français, qu'ils ne maîtrisaient pas totalement. Nous, on maîtrisait pas du tout, évidemment, leur langue, qu'on appelle dialecte, mais leur langue. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi un manque objectif à cet endroit-là, qui était que la langue de l'amour, quand même, c'est la langue instinctive, c'est la langue maternelle. Et on n'avait pas la même, en fait. En plus de la pudeur inhérente à ces cultures, il y avait une espèce de double couche qui nous empêchait, en fait, d'être dans cette dimension tactile, etc. Mais qui, au fond, rétrospectivement, je me rends compte, a sans doute été désirée par ma mère. Mais avec le mutisme qui était le sien et l'impossibilité de le formuler.
Et du coup, quelles ont été les conséquences de ça sur toi en tant qu'homme ?
En tant qu'homme, la confirmation de ce que j'avais déjà appris au quartier, qui était que je devais être assez dur et que la tendresse, la sensibilité n'étaient pas faits pour moi.
Donc t'es un homme, t'es noir, on a parlé un tout petit peu des rôles genrés, de la place des femmes, ou de du fait qu'elles étaient en périphérie, notamment pour les filles de ton âge. Est-ce que tu te rappelles du premier moment où tu t'es rendu compte que tous les individus n'étaient pas traités de la même façon ?
Très tôt, vraiment très tôt, c'était avant que je déménage, je sais pas, c'était à 5 ans. Après, moi, j'ai grandi dans un contexte un peu particulier qui est que on était une famille très nombreuse et on squattait illégalement un immeuble. Donc, concrètement, on était dans un immeuble avec des rats, des souris, de l'amiante, des groupes qui essayaient de nous sortir de là. J'ai grandi, moi, les 6 premières années de ma vie comme ça. Donc, très vite, je savais très bien qu'on était un peu dans la merde et que d'autres personnes que je pouvais croiser, même à la maternelle, ne vivaient absolument pas ça, sans pouvoir le formuler. Parce que j'avais pas, évidemment, les mots. Mais très vite, je sentais qu'on n'était pas du tout au même point.
Ouais, c'était juste, il n'y avait pas besoin de le formuler, en fait. C'était
ça.
Évident.
C'était
la situation en elle-même.
C'était inscrit dans ma chair, en plus. Plus que dans les mots.
Ça veut dire quoi pour toi, être un homme ?
Ça dépend. Est-ce que c'est ça veut dire quoi d'être un homme au regard de ma construction ou être un homme aujourd'hui ?
Eh ben, les deux m'intéressent. Et en quoi c'est différent ?
Au regard de ma construction, je dirais qu'être un homme, c'était se départir et s'éloigner de tout ce qui était estampillé comme étant féminin. Et ça passait par incarner presque l'opposé, et c'était cette espèce de dureté, cette espèce de passivité, c'était devoir performer à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit physiquement, mais que ce soit aussi professionnellement, que ce soit financièrement, que ce soit aussi émotionnellement, dans la rétention des émotions, c'est une performance. C'était devoir performer et devoir porter davantage de responsabilités que les femmes. Ça, c'est être un homme au regard de ma construction. Aujourd'hui, je ne saurais plus vraiment le définir, et je crois que c'est bon signe.
Je suis d'accord. En fait, à partir du moment où on appose des caractéristiques et des étiquettes à un genre, c'est que déjà on l'enferme et qu'on empêche les gens d'être qui ils veulent être vraiment.
Ouais.
Et à quel moment est arrivée l'étincelle où tu t'es dit, il faudrait peut-être que j'arrête de performer, justement ?
Vraiment, il y a quelques années, en sortie d'une relation qui s'est arrêtée parce que j'ai subi une rupture, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment rencontré cette personne, et vice-versa, que je n'avais pas vraiment été moi-même. Et le temps passant, je me rendais compte que c'était juste parce que j'étais bloqué dans la performance que je devais incarner, et j'étais absolument, absolument certain qu'elle attendait ça de moi aussi, au point de pas vivre d'intimité concrètement avec elle. Et à ce moment-là, je me suis dit, ou bien ça continue toute ma vie, et dans tous les cas, pourquoi pas ? Et ça allait dans le sens de ce que je m'étais dit avant de rencontrer cette femme, qui était, par performance, j'accepte de ne jamais dealer avec une intimité et une sexualité partagée avec une femme, parce que j'ai peur, dans cet endroit d'intimité, de décevoir. Vraiment, et je m'étais donné cette trajectoire de vie de manière presque explicite. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'au fond, ça ne me convenait pas. Parce que j'avais, je pense, goûté au nectar de l'amour et je ne pouvais plus y renoncer. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant pour pouvoir en vivre d'autres? Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut que je baisse ces armes-là.
Ça s'est traduit comment?
Ça s'est traduit par le fait de m'intéresser à la masculinité, mais pas en lisant ou pas, non, par m'intéresser, en me questionnant moi-même. J'avais déjà un peu cette appétence par le fait d'être auteur, réalisateur, même si à l'époque c'était que de petits courts-métrages, mais c'était quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Et j'ai commencé à écrire, parce qu'en fait, ça, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de passer par un prisme artistique pour mieux comprendre une situation, un thème, même s'il est intime. Et donc, j'écrivais un long métrage qui était l'histoire d'un homme noir qui vit dans un quartier, qui est dans l'incarnation d'une masculinité très exacerbée et qui, au fond, vit une intimité un peu particulière, un peu compliquée, qui, à un moment donné de sa vie, rencontre une femme qui vient chambouler toutes ses pensées, à peu près ma vie, quoi. Et simplement, quand j'essayais justement d'en parler avec des potes, je voyais que c'était un sujet un peu tabou. Et à ce moment-là, je me suis dit « Waouh, ok ». Parce que avant ça, je savais que c'était un sujet tabou. Et je pense que j'avais le fantasme de me dire « Dès lors que l'un des mecs pose ce thème et ce sujet sur la table, on en parlerait. Ce serait une autorisation suffisamment alléchante. » Et en fait, non. En fait, non, il y avait toujours cette rigidité qui se poursuivait parce qu'on touchait là à quelque chose de fragile qu'on ne contrôlait pas assez, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'en parle avec mes potes. Et j'ai organisé le tournage du documentaire Dans le noir, les hommes pleurent, qui à ce moment-là n'était pas du tout un documentaire. À ce moment-là, c'était un subterfuge. Je savais qu'ils savaient que j'étais réalisateur et je savais que pour me soutenir, pour me donner de la force, ils accepteraient de participer à un documentaire si je leur présentais de la sorte. Donc j'ai créé un questionnaire sur toutes les questions que je me posais et je les ai invités chacun à venir chez moi et à répondre à ces questions-là. Parce qu'en fait, dans la vie, j'arrivais pas à leur extirper quelques réponses. Et donc ils ont tous joué le jeu. Moi, je m'attendais juste à un retour sans forcément une nudité incroyable. Ils se sont mis à poil, concrètement. Et je m'y attendais pas. Et j'étais un peu dépassé parce qu'en fait, de mon côté, c'était tellement un subterfuge que j'ai filmé avec une vieille caméra et que j'ai enregistré avec un vieux micro. C'était juste du décor et j'aurais limite pu ne pas appuyer sur REC. C'était vraiment un subterfuge. Bon, j'ai appuyé sur REC, mais je me suis retrouvé avec des images et un son de mauvaise qualité et des propos incroyables. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais mettre de côté le film que j'étais en train d'écrire, je vais essayer de faire un film à partir de ça, et je me suis débrouillé tant bien que mal pour essayer de faire un film qui soit pas dégueulasse visuellement, parce que c'est important pour moi.
Alors, il l'est pas du tout, je précise, pour les gens, et d'ailleurs, je les invite à... Il est disponible gratuitement sur YouTube, notamment, ouais. Et donc à se faire une idée.
Merci. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je fasse ça, et j'ai interviewé 13 gars en tout. Ce qui est sûr, c'est que j'avais prévu d'interviewer 30 gars. Simplement, au bout de la 10e, je me suis dit stop. Parce que j'avais beaucoup trop de propos. Et dans les premiers montages que j'ai pu faire, il y avait d'abord 8 personnes, ensuite 6 personnes, ensuite 4 personnes. Je me suis dit, il faut que je fasse un film de moins d'une heure, qui soit plutôt digeste. Et au dernier moment, j'ai décidé d'apparaître dans ce film. C'était pas du tout prévu. Et ce qui est fou, c'est que à chaque étape de montage, je balançais ces espèces de pré-montages aux personnes participantes, pour leur demander si elles étaient OK, etc. À chaque fois, il y avait une forme de validation de fait. Et à ce moment-là, il n'était pas du tout convenu que j'apparaisse dans le film. Donc, quand je leur ai balancé le montage final, il faut savoir que tout ce que je dis de moi dans le film, je leur avais jamais dit. Donc là, il y avait une surprise, il y avait un étonnement, il y avait une satisfaction aussi de savoir qu'ils m'avaient aidé à cette forme de libération.
Mais surtout que c'est très fort ce que tu dis dans le film. Et effectivement, en plus, ça arrive, on a une succession de témoignages et puis on arrive à ta partie, entre guillemets, qui en plus est mise en scène autrement parce qu'il y a des sous-titres au lieu d'avoir... je crois qu'on n'entend pas ta voix à ce moment-là, c'est vraiment tout est sous-titré.
À un moment, on entend ma voix, mais à un moment qui est sous-titré, c'est le moment où j'évoque le rapport que j'ai pu avoir vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la sexualité. Et c'est fou parce que c'était pas du tout prévu comme ça, c'est juste que quand j'étais chez moi avec l'enregistreur, ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas et j'avais envie de le transmettre quand même à travers ce film. Du coup, je me suis dit que j'allais le transmettre silencieusement vu que la voix n'était pas possible à ce moment-là, quoi.
Mais c'est très beau en termes de mise en scène, mais il y a aussi, on sent en fait qu'il y a une pudeur derrière aussi, c'est que tu te confies, mais que peut-être il faut passer par d'autres moyens.
Ouais.
Parce que je peux comprendre qu'à ce moment-là, dire toute cette chose avec ta voix et puis être une épreuve trop importante et que du coup, tu as eu envie de passer par d'autres chemins. Mais en plus, ça donne une vraie beauté à ce film à ce moment-là. Oui, du coup, alors tu interroges tes potes, vous êtes face à face, vous êtes seul à seul. Est-ce que tu crois pas que justement, ça démontre aussi vraiment très bien l'influence du groupe et le fait qu'en fait, le problème, l'un des problèmes qui existe et qui perdure, c'est que si les hommes se confient pas, s'ils révèlent pas leurs émotions, c'est parce qu'ils ont trop peur du regard des autres. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'en face à face, on se disait beaucoup plus de choses.
C'est certain. C'est certain que le groupe a une influence. En ce qui concerne ces mecs-là, il y a aussi le fait que j'ai tenté d'avoir ces conversations à deux avant le film et que c'était quand même pas possible. Est-ce que si j'avais fait le même doc en créant des groupes, la parole se serait autant libérée? Sans doute pas. Sans doute pas. Sans doute que ça a joué. Et ça a aussi joué parce que c'était moi. Enfin, c'est ce que me disent les gars. Ils me disent, mais jamais j'aurais pu me livrer devant une autre personne comme ça et jamais devant un autre gars du groupe. En fait, c'était toi, il y avait un truc. Bon, ça me rejoint un peu un truc que j'ai entendu un jour. C'est un mec qui m'a dit, ce que tu dis dans le doc est super, c'est puissant. Moi, je partage tout ce que tu dis dans le doc. Et en même temps, moi, je pourrais jamais le dire. Je pourrais jamais le dire parce que je suis un homme, je suis 1m70, je suis maigre. Si je dis ça, bah, finalement, ça me rend incroyablement fragile. Alors que toi, tu fais 1m95. D'une certaine manière, si tu dis ça, t'as ton corps qui vient quand même incarner une forme de masculinité tout de même, et il y a une forme d'équilibre que moi, je ne peux pas atteindre au regard de mon corps, et du coup, je ne dirai jamais ça. Parce que bien que je sois dans ces réflexions, j'ai toujours l'impression, parce que nos désirs ont été conditionnés, qu'il faut quand même que je sois un peu masculin, un peu viril pour plaire aux femmes. Il y a pas mal d'hommes, en fait, qui pensent ça, et je pense que le fait d'être là face à eux, de leur poser des questions, parfois en me livrant, avec l'incarnation qui est la mienne, a pu servir.
Si je ne me trompe pas, ça date de 2018, ces prises de vue. Est-ce que, du coup, sur les 5 ans qui se sont écoulés depuis, tu t'es rendu compte si ça avait changé tes rapports avec tes potes? Est-ce que vous avez des conversations différentes
maintenant? Complètement. Déjà, il y a eu les entretiens, et ensuite la sortie du film. La sortie du film qui se fait 2 ans plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un avant-après ces entretiens. C'était bouleversant d'ailleurs. J'ai même reçu l'appel d'un pote qui m'a dit quelques jours plus tard ou le lendemain, je ne m'en souviens plus, merci, j'ai pu dire à mon père pour la première fois que je l'aimais. Il y a vraiment, ça nous a transcendé déjà individuellement dans le rapport qu'on peut avoir ou qu'on pouvait avoir à nos parents, à nos familles, à nos conjointes, parce qu'il s'agit que d'hommes hétéros, et entre nous. Ça veut pas dire que finalement, on est toujours dans une espèce d'ouverture totale et d'exposition de ce qu'on ressent d'un point de vue émotif. Mais on sait maintenant qu'il y a la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se confier, que l'oreille qui sera en face de nous sera plutôt attentive. Ça veut pas dire qu'elle aura les mots, mais ça veut quand même dire que c'est plus chelou, c'est plus bizarre de ressentir ce qu'on ressent parfois et de l'exprimer.
La porte est ouverte.
Et ça change absolument tout. Parce que depuis, évidemment, j'ai partagé avec chacun des gars, et bien d'autres gars d'ailleurs, qui n'apparaissent pas dans le doc, des moments d'intimité et de confession d'une puissance que j'aurais jamais pu imaginer avant le doc. Jamais pu.
Mais il y a un truc que moi j'ai déjà remarqué aussi à titre personnel, depuis que notamment je fais le podcast, c'est que quand toi tu révèles ta vulnérabilité, quand tu parles de choses personnelles et intimes, quand tu montres que tu veux déconstruire, même si ce mot est maintenant très très galvaudé, ta masculinité et l'homme que tu es, ça attire plein d'hommes qui t'expliquent que bah, eux aussi ils aimeraient bien faire pareil à leur sauce, mais qui savent pas comment s'y prendre, et ça crée plein de conversations. Et tu vois qu'en fait il y a plein d'hommes qui sont tellement bloqués qu'ils ont besoin de... Je vais pas dire modèle parce que ça serait se mettre sur un piédestal, mais ils ont quand même besoin d'inspiration et de gens à suivre parce qu'ils savent pas comment s'y prendre, quoi.
Bien sûr. Et moi, je pense que utiliser le mot modèle, c'est pas tant un piédestal que ça. C'est vraiment et concrètement une réalité. Vraiment, je pense qu'on a tellement un manque de modèle à cet endroit-là que on peut incarner un archétype qui représente un modèle. Alors évidemment, à l'échelle micro, c'est un modèle ou alors une autorisation. De dire, ok, c'est possible, et en le faisant, le mec n'est pas mal considéré, bien au contraire. Et ce qui a été fou aussi pour les hommes hétéros que je connais, et même ceux avec qui j'ai eu pas mal de conversations, c'est de se rendre compte d'une chose. Quand on est un homme hétéro, finalement, j'ai l'impression que pas mal de choses, voire la plupart des choses qu'on peut faire, qu'on peut déployer, c'est pour plaire aux femmes. Y compris parfois quand on incarne cette virilité exacerbée, c'est pour plaire aux femmes. On a la profonde croyance que c'est ce qui plaît. Cette espèce de virilité, avoir du charisme, le mâle alpha, etc. On croit que c'est ce qui plaît. Et ce qui est fou, c'est que se rendre compte qu'être dans une ouverture d'esprit, dans l'expression de ses émotions, y compris les émotions qui ont été si longtemps estampillées comme étant féminines, de manière totalement conne, et que ça pouvait plaire aux femmes, ça a changé énormément de choses dans la manière dont les hommes hétéros que je connais visualisent cette chose-là. C'est-à-dire que avant, il y avait cette idée de... Mais parce que parfois, ils l'ont entendu aussi, hein. C'est ce qui est incroyable. Il y avait cette idée de « si tu pleures, t'es fragile, et si t'es fragile, tu n'es pas attractif ». Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, en tout cas autour de moi, l'idée de « si je pleure, c'est parce que j'assume l'émotion qui me traverse ». Et d'une certaine manière, en plus de ça, ça peut être un atout de séduction. Et ce changement de paradigme, il est assez dingue. Il se fait petit à petit, mais je le vois de plus en plus.
C'est vrai qu'il ne faut pas que toutes les avancées qu'on essaye de faire à titre personnel soient dirigées par ça. Mais en même temps, si ça peut pousser plein d'hommes à se réinventer et à, effectivement, à assumer de pleurer, à assumer leur sensibilité, bah, il ne faudrait pas s'en priver, en fait.
Mais c'est ça. Mais d'autant plus que tout ce qui est rigide, tout ce qui est concrètement de l'ordre de la croyance, est déjà piloté par l'idée de plaire aux femmes. C'est déjà le cas. Donc, si ils arrivent à concevoir d'autres moyens de plaire aux femmes qui, d'une certaine manière, les libèrent et font en sorte qu'on vive dans une société plus juste, plus sensible, plus agréable, moi, je me dis que dans un premier temps, je prends. Dans un premier temps, je prends, même si le prisme, c'est toujours de plaire aux femmes. Si, en chemin, ils arrivent à se libérer, ils arrivent à avoir des relations beaucoup plus saines, ils arrivent à se libérer de toutes ces choses-là, mais qui les éloignent d'eux-mêmes. C'est ça, le truc. Qui les éloignent d'eux-mêmes, qui les éloignent des autres, qui leur font vivre une intimité incroyablement toxique déjà vis-à-vis d'eux-mêmes. Si, dans un premier temps, on arrive à faire ça, moi, je prends. Après, évidemment, c'est pas du tout une finalité souhaitable, mais dans un premier temps, je prends.
T'avais des idoles quand t'étais ado?
Ouais.
Ouais. C'était qui?
Michael Kyle de Ma Famille D'Abord.
Oh.
Ouais. Ah ouais, lui c'était mon gars.
Pourquoi c'était ton gars?
C'était mon gars parce que je m'étais toujours dit à ce moment-là, si j'ai une famille plus tard, et c'était pas si, c'est quand j'aurai une famille plus tard, je veux qu'elle soit comme la sienne. Je veux qu'on s'amuse, je veux qu'on se dise les choses, je veux qu'il y ait ce genre de conseil de famille, je veux que... Je m'étais toujours dit ça avec mes yeux d'enfant. Beckham? Parce que j'ai fait du foot très longtemps, mon équipe c'était Manchester United, et Beckham c'était le numéro 7 de Manchester United. Le numéro 7, c'est toujours le numéro emblématique de ce club, donc c'était... Et j'aimais bien sa manière de jouer, Beckham. Corneille, c'était une idole aussi.
Ça représente quoi, Corneille, pour toi?
Corneille, ça représente... Mais je m'en suis rendu compte rétrospectivement, un homme noir, connu pour son art, qui n'est pas forcément estampillé dans le champ du rap, déjà. J'aimais le rap, mais déjà, ce pas de côté, moi, me plaisait énormément. C'était aussi une histoire particulière, avec ce qu'il a subi. C'était un rapport homo que je voyais déjà et qui m'avait l'air tellement inaccessible depuis l'endroit dans lequel j'étais. Et c'était une beauté aussi. C'était un homme beau, noir, et nous, dans les représentations, on n'en avait pas. Pas des hommes beaux, noirs, des hommes noirs, tout simplement. On en avait très peu. Et oui, pour toutes ces choses-là, moi, j'ai beaucoup aimé Corneille, j'ai aimé sa musique, j'ai aimé... Mais je pense que j'ai aimé une part de sa sensibilité.
Du coup, ces idoles-là, elles ont plutôt eu tendance à t'aider à te construire positivement.
Ouais, clairement.
Parce que même Beckham, enfin, c'est pas l'image forcément... En plus, Beckham, il y a un truc aussi très esthétique. C'est quand même quelqu'un d'extrêmement classe, qui est encore aujourd'hui mannequin pour des grandes marques, et qui en même temps a l'air de défendre des valeurs familiales. C'est pas le même monde que le nôtre, parce qu'il y a quelques millions de dollars entre nous, mais on a quand même l'impression de quelqu'un qui veut essayer de transmettre des bonnes valeurs à ses enfants, avoir un modèle familial, mais plutôt un modèle qui soit plutôt fluide, en laissant vraiment ses enfants être qui ils veulent, ce qui est toujours plus facile avec de l'argent, mais quand même. Donc du coup, t'étais pas a priori, sur tes idoles principales en tout cas, t'étais pas influencé négativement. Il n'y avait pas de grosse toxicité.
Beckham, moi, ça je m'en rends compte encore avec le recul, mais quand j'étais petit, moi c'était juste le Beckham sur le terrain. Je trouvais sa manière de jouer incroyable. Moi, quand je jouais au foot, mon atout principal c'était la précision. La précision, comme Beckham était connu pour ça, donc à chaque fois qu'on jouait avec tous les gosses et qu'il y avait quelqu'un pour centrer, pour tirer, c'était moi qu'on appelait parce que j'étais vraiment connu pour être très précis. Donc j'avais vraiment un rapport très sportif à Beckham. Après, évidemment, il y a eu Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, les combats, etc. Ça nous a transcendés, tous. Ça nous a presque un peu fragmentés aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un modèle, ça, de savoir se battre aussi. Ensuite, il y a eu d'autres films, Ma Cité va craquer, La Haine, etc. Il y a eu toutes ces influences-là. Mais j'ai quand même l'impression qu'elles ont été minimes. En gros, j'ai l'impression que mon conditionnement masculin a été à 90-95% nourri par la réalité quotidienne du quartier. Et que ces idoles-là ont été parfois des soupapes comme ça, qui n'ont pas été avouées. Mais que c'était ça, c'était sortir à 10h, à 11h du matin, retrouver des potes, aller jouer au foot, croiser d'autres garçons, jouer au foot, s'embrouiller un peu, aller au Bichaumont, aller au supermarché, voler des M&M parce qu'évidemment on n'avait pas d'argent. C'était toute cette vie-là, quoi, beaucoup plus. Et la figure principale du grand du quartier. En tout cas, pour ma part, mais je crois que c'est le cas pour pas mal des personnes de ma génération, on est beaucoup plus proche des grands du quartier que de nos parents. Beaucoup plus proche culturellement. C'est-à-dire que nos parents, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, le mutisme, la mélancolie, la blessure de leur exil, qu'on aperçoit sans pouvoir mettre de mots dessus, cette distance objective. Le grand du quartier, on sait déjà que c'est à la fois un modèle et à la fois une incarnation de ce qu'on sera plus tard. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'équation, on s'imagine hors du quartier, à part si on devient footballeur, etc. Mais sinon, on s'imagine dans le quartier, enfermé dans le quartier. Donc le grand du quartier devient un peu une représentation de notre futur. Et donc, il devient un modèle incroyable.
Est-ce que tu les vois encore, ces grands du quartier ?
Je les croise parfois. Je les croise parfois et je vois la satisfaction dans leurs yeux, la fierté de se dire « Ah, t'es sorti du quartier ».
C'est juste dans leurs yeux, vous n'en parlez pas ?
Si, si, ils me le disent. Si. Si, ils me le disent, bien joué, etc. T'es devenu un homme, t'es devenu un bel homme, bien joué, etc. Fais attention quand même. Parfois avec des trucs, j'espère que t'es pas homosexuel. Enfin, tu vois, bon, parce qu'ils restent avec leurs croyances. Et ça, ils me le disent sous le ton de l'humour. Mais quand même, je sens que ça vient résonner avec une part de vérité. Mais non, une vraie satisfaction de voir que j'ai réussi à m'extirper du quartier. Bien que, d'une certaine manière, il fait partie de moi, le quartier. Donc, je pourrais jamais m'en extirper. Mais que physiquement, en tout cas, et que dans mes volontés, je sois ailleurs que dans le quartier.
Et en 2023, c'est qui tes idoles ou c'est quoi tes inspirations ? C'est qui les gens qui t'inspirent ?
Je sais pas s'il y en a en 2023. Je sais pas s'il y en a parce que précisément, pour rejoindre ce qu'on disait, je pense qu'il y a un manque de modèles de ce à quoi j'aspire. Donc je sais pas, je pense que, je sais pas, moi instinctivement, si on me dit c'est qui ton idole, j'irais dire Christiane Taubira, par exemple. C'est pas un homme.
Mais c'est très bien, parce que justement, il faut dire aux gens, il faut dire aux hommes, il faut dire aux petits garçons aussi qu'avoir des inspirations féminines et des inspirations non masculines, pour faire encore plus large, c'est fondamental en fait. On a tous grandi, les garçons, en ayant des modèles garçons, parce qu'en plus, surtout quand on est un homme blanc, on n'a que des gens qui nous ressemblent, des mecs blancs dans les médias, dans les films, dans les séries, il y en a énormément, donc on n'a qu'à se servir. Et on fait l'erreur, du coup, de ne pas aller piocher ailleurs. Donc c'est super important de citer des femmes.
Ouais, ouais, et en plus, c'est vraiment parce que c'est le cas, quoi. Mais non, j'ai pas... C'est peut-être aussi propre à l'âge, ou grandissant, on en a de moins en moins, mais je n'en ai pas.
Ouais, après, on peut aussi travailler à être son propre modèle et sa propre inspiration.
C'est ça, même si évidemment, c'est toujours perdu d'avance, vu que tel que je conçois ma trajectoire, je serai toujours en évolution, toujours en apprentissage. Dans l'idée du modèle, en tout cas, tel que je l'imaginais quand j'étais plus jeune, c'était plutôt une icône figée, une icône qui était d'une certaine manière déjà parfaite. Moi, je sais que je ne serai jamais. Je sais que je serai toujours en apprentissage, toujours en défaut, toujours en rectification, toujours en satisfaction parfois, mais je serai toujours en mouvement. Donc, je me dirai jamais, franchement, je suis mon propre modèle. Par contre, j'essaierai toujours de m'améliorer, c'est certain.
C'est comme à chaque fois qu'on parle de déconstruction, notamment dans ce podcast et ailleurs, où on explique que la déconstruction, c'est un chemin qui n'est jamais terminé. Que du coup, on essaye toujours de s'améliorer, de prendre conscience de nouvelles choses et puis d'en tenir compte pour notre quotidien et pour essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes.
Ouais. Oh, exact.
Dans Jour Noir, ton podcast, ça s'ouvre le matin de tes 30 ans. L'une des grandes questions de ce podcast, c'est enfant ou pas enfant ?
Oui, oui, le point de départ, c'était la trentaine. C'était la trentaine et j'avais évidemment le modèle Michael Kyle, ma famille d'abord. Je savais qu'il était très imprégné en moi, mais pendant très longtemps, d'une certaine manière, j'y avais renoncé parce que justement, je m'étais faite cette promesse à moi-même que je n'aurais jamais de relations sexuelles. Et quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles à partir de mes 27 ans à peu près, là évidemment, j'ai eu des intimités partagées mais qui n'ont pas duré très longtemps, etc. Bon, du coup, j'avais jamais été en couple à ce moment-là. Et à 30 ans, quand je passe du 2 au 3, je me rends compte que la question se pose d'autant plus que de plus en plus de potes autour de moi sont pères. La dernière fois, on était en soirée et je disais sous le ton d'humour à un pote, c'est fou, on est minoritaire. On est minoritaire dans ma bande de potes. Il y a des mariages, il y a des enfants, etc. Et je pense qu'il y a eu, oui, il y a eu la coalition entre à la fois cet âge-là et à la fois la réalité de mes amis qui m'ont amené à me poser la question. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que... Parce que j'en tremble à l'idée d'être père. Je pourrais en trembler au regard de ma trajectoire pour pas mal de raisons. Je pourrais en trembler parce que je me dis déjà, socialement, je ne veux tellement pas reproduire la dépossession que j'ai connue plus jeune que je veux d'abord économiquement être stable. J'admets ne pas m'être posé la question à cet endroit-là de l'écologie. Je sais que certains le font. Moi, à cet endroit-là, je ne me la suis pas posée. Je me suis posé la question, évidemment, du monde moderne, du monde numérique, de comment est-ce que ça vient impacter une parentalité. Qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on transmet pas, comment est-ce qu'on cadre ce rapport au numérique, etc. Je me suis évidemment posé la question du genre. Si c'est une petite fille, à quoi est-ce qu'elle est exposée? Si c'est un garçon, à quoi est-ce qu'il est exposé? Et comment est-ce que je dois aussi l'amener à avoir conscience du fait qu'il peut lui-même incarner une dangerosité? Bon, mais elles étaient minoritaires, toutes ces questions. La question principale, c'était, mais attends, mais si je fais un gosse, il sera noir. métis si ma conjointe n'est pas noire, mais il sera noir. Et qu'est-ce que je fais avec ce gosse-là? Parce que s'il est noir, évidemment qu'il vivra dans cette société et subira d'une certaine manière un racisme. Explicite ou non, il sera confronté à ça. Déjà, quelle est ma position vis-à-vis de ça? Est-ce que je, pour moi, c'est une position impossible d'accepter ça et de devoir me dire qu'un jour, je vais devoir avoir une conversation avec lui sur le fait qu'il est noir dans une société telle que la France et qu'il subira des choses, qu'il devra s'y adapter. Et je me disais, mais c'est fou, il est même pas encore né, ce gosse. Il est même pas encore né que je dois déjà penser à le préparer à des choses qu'il subira, de par quelque chose qu'il n'a pas choisi, qui est la couleur de sa peau. Et cette équation-là, pour moi, elle était indigeste. J'y arrivais pas et je me suis dit, mais attends, mais il faut que je trouve une solution, quoi. Je peux pas être dans une telle impréparation et si ça devenait demain, quoi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là et à écrire. Mais l'écriture est vraiment arrivée en fin de processus. C'est-à-dire que, honnêtement, au début, j'avais un peu honte de ressentir ça. Donc, j'ai cherché toutes les autres possibilités. C'est pour ça que j'ai évoqué le rapport social, le rapport numérique. J'ai cherché tout ce qui pouvait me bloquer dans cette envie. Et en fait, je voyais bien que c'était des prétextes, que le vrai sujet, c'était ça. C'était être noir aujourd'hui en France. Et je me disais, mais oh, putain, j'ai tellement honte de ressentir ça. Et j'ai commencé à écrire ça tapis dans l'ombre. Et petit à petit, j'ai commencé à en parler. Et plus j'en parlais aussi à des personnes concernées, plus je me rendais compte que c'était vraiment un sujet. Et c'était un sujet extrêmement tabou. Il y avait une vraie omerta autour de ça. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Ce que là, j'évoque avec moi-même et avec d'autres personnes concernées, 100% de mes amis qui ne sont pas comme moi, qui ne sont pas noirs, le méconnaissent absolument. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette manière dont le politique vient fragmenter mon intime? Et même un choix aussi dingue que, est-ce que je fais un enfant ou non?
C'est vrai que t'en parles dans le podcast, tu parles de tes amis blancs et en disant qu'ils comprennent absolument pas, en fait.
Oui.
Et il y a vraiment cette question-là, c'est que la société évoluerait sans doute positivement si les hommes se rendaient davantage compte de ce que vivent les femmes et si les blancs se rendaient davantage compte de ce que vivent les non-blancs.
Exactement. Face à la police, mais face à toutes les institutions, face à l'État, face aux recruteurs, face à tout. Moi, je me suis posé la question pour Jour Noir et pour le doc qui va suivre à partir du même texte et pour le Seul Ancien, je me suis posé la question de mais quels sont mes privilèges? Quels sont mes privilèges? Et je me suis rendu compte que le privilège que je pouvais avoir, c'était un rapport à l'espace public. Je suis grand, je suis un homme, je suis noir, je sais que je peux marcher où je veux, quand je veux, sans jamais me poser la moindre question quant au danger. C'est déjà beaucoup, c'est énorme. Mais j'en ai pas trouvé d'autre, j'en ai trouvé aucun autre. Et je me suis dit, c'est fou. Il y a évidemment ce besoin de faire en sorte que toute la société comprenne, et il y a aussi l'efficacité. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que je fais, que ce soit sur cette question-là, comme sur la masculinité, c'est d'être efficace sur le terrain. J'ai pas juste envie de produire des choses qui intéressent les gens qui sont déjà concernés, qui sont déjà dans cette réflexion, et être dans une espèce de microcosme où on se satisfait d'être déconstruit, entre guillemets, même si c'est jamais le cas, et d'être d'accord sur... Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. C'est pour ça que, par exemple, pour la masculinité, cette semaine-là, j'étais 3 fois en prison, où je projette le film, on parle de masculinité, j'anime des ateliers. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une efficacité sur le terrain. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des mots qui bloquaient toute efficacité sur le terrain. Par exemple, concernant cette question, privilège blanc. On a perdu 70% des personnes en face de nous. Mais c'est vrai pourtant. Mais le mot comme ça dit explicitement, pour nous, c'est une conclusion. Pour nous, c'est on a fait une analyse et on se rend compte du coup qu'il y a un privilège blanc. Mais quand tu es en face d'une personne qui n'a pas fait l'analyse et tu lui dis juste privilège blanc, c'est mort. Il se dit mais de quoi tu parles? Pareil pour masculinité toxique. Au fond, non, c'est que c'est vrai. Mais dire ça à un homme qui s'est jamais posé la question,
c'est insupportable.
C'est insupportable, c'est mort. Et il y a tellement de mots comme ça qui sont les conclusions d'une pensée et d'une réflexion qu'on a et qu'on partage collectivement et avec lesquelles on est absolument d'accord, qui sur le terrain sont inefficaces. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être efficace. C'est du coup de m'adapter au terrain. De m'adapter au terrain, je sais pas, par exemple, il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, mais moi, ma fille, je lui dis, concernant les homosexuels, qu'ils iront tous en enfer. » Bon, c'est incroyable. Et en même temps, si, en face de cet individu, je parle de masculinité toxique, etc., enfin, on est totalement à côté de la plaque. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est de s'adapter concrètement à la personne qui est en face de moi, et ne pas jouer ma certitude contre la sienne, sinon on reproduit ce qu'on voit sur les plateaux télé, et on devient absolument stérile, quoi. Donc, oui, je suis largement pour que la société se rende compte du vécu concret d'une femme, aujourd'hui, du vécu concret d'une personne issue d'une minorité raciale, du vécu concret d'une personne étant dans une dépossession économique, etc. Mais par contre, il faut trouver les armes intelligentes pour pouvoir les faire entendre, sinon on sera juste entre nous, dans la satisfaction du fait qu'on y a réfléchi, mais on n'y arrivera pas.
Mais effectivement, moi je me pose souvent la question de comment on va toucher des nouvelles personnes pour éviter de rester dans ce microcosme dont tu parles. Donc toi, ta solution, ou une de tes solutions, c'est d'aller sur le terrain pour rencontrer des gens qui se seraient peut-être pas posé ces questions-là si t'étais pas présent.
Ouais, et de jouer avec leurs billes. Par exemple, je me suis rendu compte d'une chose, je me suis dit, mais c'est fou à quel point on n'est pas pop. On n'est pas du tout pop. Pourquoi ne pas un jour... Je sais pas, les jeunes, par exemple, aiment les téléréalités. Pourquoi ne pas inventer une téléréalité autour des masculinités? Pourquoi ne pas faire une table ronde, comme j'aimerais le faire, avec uniquement des rappeurs, mais des rappeurs très connus, à une table ronde avec des footballeurs? Jouer avec les codes populaires. Peut-être que les mots qui seront choisis par ces personnes-là ne seront pas les mêmes que nous, ne seront pas dans la précision, etc. C'est pas forcément des personnes qui ont lu du Bellux ou du... C'est pas grave. Mais en tout cas, il y a un sujet qui est mis sur la table avec une audience et une incarnation extrêmement populaire et qui permettrait de toucher mais mille fois plus de jeunes que nous, avec nos mots hyper bien articulés, les présenter comme ça. Donc moi, l'idée, en tout cas, c'est mon ambition pendant les prochaines années, c'est de jouer avec les billes, quitte à édulcorer un peu ma pensée, tout en la gardant quand même dans la trajectoire, mais jouer avec les billes populaires surtout. C'est hyper important.
Est-ce que tu te décrirais comme féministe ?
C'est une excellente question. Féministe, évidemment que je suis. Et après, il y a toujours une gêne à cet endroit-là, parce que finalement, je ne vis pas, moi, la réalité de ce que peut vivre une femme. Donc, encore une fois, ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait d'être efficace sur le terrain, et ça, c'est ma priorité absolue. Être validé ensuite par les personnes qui font le même travail que moi, etc., c'est un plus, c'est toujours agréable, mais c'est pas du tout mon ambition. Mais oui, je suis profondément féministe. Je suis profondément allié du féminisme, de ma manière, en bossant sur les masculinités, parce que je pense que ça va dans le même sens. Mais j'ai toujours du mal à le dire et je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Peut-être parce que j'ai pas envie que ce soit mal perçu.
C'est le mot féministe en fait.
Oui.
Effectivement, quand tu dis allié du féminisme, déjà ça règle une partie du problème.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que j'ai pas du tout envie que ce soit mal perçu par les personnes qui vivent la réalité de ce pourquoi le féminisme existe. J'ai pas envie que ce soit trop facile. Ok, t'es féministe, mais qu'est-ce que tu fais ? Ok, bon, donc oui, je suis un allié du féminisme pour sûr, et peut-être qu'un jour, je dirais, sans cligner des yeux, je suis féministe. Et même si je sais que je le suis profondément, dans ma manière de penser et de voir les choses, il y a encore une petite hésitation à le dire, comme si j'avais l'impression que c'était pas encore tout à fait autorisé.
Comment, hors du secteur du travail, tu as plein de projets qui sont tous ancrés autour des masculinités, enfin tous en tout cas, ou une bonne partie autour des masculinités, des questions d'identité, comment on est féministe au quotidien ?
Ben c'est ça, essayer d'avoir des conversations franches, mais en toujours, ça c'est ma méthode, en utilisant la langue de l'autre. Oui, en essayant de voir, d'amener à voir et à entendre ce qu'on pense, pas parce qu'on pense que c'est la vérité absolue, mais parce qu'on pense que ça va dans le bon sens. En ce qui me concerne, en ayant énormément d'amis femmes, en ayant énormément de conversations en ce sens, en continuant d'apprendre tous les jours, en étant vigilant. Par exemple, alors c'est des petites choses, hein, mais je sais pas, j'essaie vraiment de pas être lourd dans l'espace public vis-à-vis des femmes. J'essaie d'être le moins dérangeant, le plus clean possible à cet endroit-là. Parfois, ma simple présence d'hommes, surtout d'hommes grands, etc., peut susciter des choses. Je le sais. En fait, j'essaie de me mettre dans la peau des femmes. Je sais pas si j'y arrive tout le temps, mais j'essaie. Et je pense que c'est ma manière d'être féministe, ouais.
Dans Jour Noir, tu racontes cet épisode où tu es derrière une femme dans la rue. Et c'est la question de est-ce que je change de trottoir ? Qu'est-ce qu'elle va penser si elle se retourne et qu'elle me voit ? Alors en plus, c'est déjà des questions qu'un homme blanc peut se poser, notamment s'il est 2h du matin et qu'on rentre de soirée et qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Mais toi, en tant qu'homme noir, il y a un million de questions qui traversent ta tête à ce moment-là.
Ah ouais. Mais déjà, parce que je ne le dis pas dans le Jour Noir, ça m'arrive en journée et ça m'arrive aussi avec des hommes, cette chose-là. Soyons concrets. À la fois... Dans Jour Noir, c'est à un moment donné, c'est un pétage de plomb. C'est je m'adapte, et je fais ça pendant toute ma vie. Au bout d'un moment, j'en ai marre parce que et ça rejoint une conversation que j'ai pu avoir un jour de manière très franche avec une amie qui m'a dit mais moi, il est évident que quand je rentre chez moi, quand il y a un mec qui me suit, franchement, je me retourne, j'ai peur. Mais franchement, si je suis honnête avec toi, quand je me retourne et que je vois que c'est un arabe ou un noir, j'ai encore un peu plus peur. Et c'est débile, parce que peut-être que ce serait le premier à venir me défendre si on m'agressait. Mais voilà, c'est les stéréotypes, on a été nourris par ça. Oui, au bout d'un moment, il y a cette espèce d'intersection entre, évidemment, le fait que je sois un homme et le fait que je sois noir, et des peurs que je peux percevoir parfois qui penchent plutôt du côté de ma couleur de peau que de mon sexe et de mon genre. Et au bout d'un moment, ça devient un peu insupportable. Un peu insupportable, d'autant plus quand on sait profondément soi-même qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas... la peur qu'on nous plaque là en pleine gueule. On n'est pas ce mec agressif, ce mec qui... On n'est pas ça. On est juste là. On est sur notre téléphone, en train de répondre à un message sur WhatsApp. On est en train d'écouter un podcast. On est tout à fait autre chose, quoi. Simplement, à ce moment-là, on est juste réduit à quelqu'un de dangereux. Ça fait mal. Ça fait très mal.
Comment on fait pour pas se dire je vais rester cloîtré chez moi et plus sortir et éviter toute interaction ?
Hier, j'étais à Bois d'Arcy avec des prisonniers, j'en parlais. On parlait de la différence qu'il pouvait y avoir entre les jeunes de quartier en banlieue et les jeunes de quartier sur Paris. Et finalement, du fait que sur Paris, les quartiers avaient des proximités avec des espaces bobos, des espaces culturels, etc. Mais au fond, ils n'y allaient jamais. Alors que c'est possible. Il n'y a même pas la distance géographique et l'impossibilité des transports que vivent et que subissent les banlieues. C'est possible, mais pourtant on n'y va pas. Parce qu'il y a toujours l'idée de se dire, mais je sais que quand je sors du quartier, je suis hostile parce que j'ai ma dégaine, parce que j'ai ma couleur, parce que je n'ai tellement pas envie de me confronter à ça, et que du coup je veux rester au quartier. Et au quartier, ce qui est réconfortant, c'est que je suis l'incarnation de la norme. Et du coup, j'ai pas à me poser toutes ces questions-là. Donc c'est très dur, en fait. C'est très dur, et moi, c'est quelque chose que je continue de vivre. C'est dans la trajectoire d'un transfuge de classe comme ce que je suis en train de devenir. Je vois bien que, de plus en plus, je suis dans des espaces où je suis le seul noir. Ça, c'est le cas à 95%. J'y suis et je suis de plus en plus à l'aise et en plus c'est dans ces espaces-là que j'arrive à être utile, en tout cas à avoir voix au chapitre. Mais je sais aussi que c'est très compliqué, très 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 compliqué de renoncer ou d'oublier le regard de l'autre.
T'en parles aussi dans le jour noir, il y a la peur aussi d'être peut-être le noir de service. Quand ouais. Vous êtes deux noirs dans une soirée, de se dire je vais peut-être pas me rapprocher de l'autre personne noire de la soirée parce qu'on va croire que ou parce que...
Ouais, il y a ça, il y a... J'ai pas envie d'incarner... le communautarisme qui serait naturel parce qu'on est noir, et en même temps, parfois, ça bascule sur une forme de concurrence entre nous, de qui va être le plus intégré. Ça, on peut le voir avec toutes les minorités, on peut le voir avec des femmes, parfois dans des contextes, on peut le voir. Mais ça, il se joue ces choses-là. Il se joue énormément de choses. Moi, je peux même m'en rendre compte, en tant qu'homme hétéro, par exemple, à l'endroit de la séduction, il est clair que, de plus en plus, et c'est un fait, 95% des espaces que je suis amené à fréquenter sont des espaces où je suis le seul noir. Et donc que les femmes que je suis amené à fréquenter, à rencontrer, sont des femmes blanches. Mais je vois bien que quand il y a une femme noire, et je le dis un peu dans le podcast, je sais que la rencontre est impossible. Parce qu'on n'a tellement pas envie d'incarner ça. Les deux personnes noires de la soirée qui se sont rencontrées, on n'a tellement pas envie d'incarner ça qu'on est totalement à l'opposé de cette incarnation, quitte à ne pas se calculer ou à se calculer de loin comme ça, mais presque avec un peu d'hostilité. Enfin, on est un peu bloqué par ça, c'est vrai.
Oui, en fait, on préfère quasiment se priver d'une potentielle belle relation plutôt que d'être, après, stigmatisé ou regardé bizarrement.
Ouais, c'est ça. Et on peut le voir d'ailleurs avec la plupart des transfuges de classe qui viennent d'une minorité et qui sont en couple avec une personne qui, elle, ne vient pas de la même minorité qu'elle. Parce qu'on veut tellement pas incarner ça. On s'est extirpé du quartier, on s'est extirpé de l'incarnation ou des stéréotypes d'une minorité, et on veut tellement marquer une distance que le choix de nos partenaires est aussi dirigé par ça.
J'ai une dernière question. Est-ce que si tu inspectes et si tu observes ta vie d'homme dans le rétroviseur, est-ce que tu as des regrets ?
Bon, déjà, fort heureusement, j'ai rencontré la sexualité hyper tard. Je sais que si je l'avais rencontré plus tôt, j'aurais fait honnêtement des dingueries. Je le sais, parce que tout ce qu'on évoque, tout ce qui est mis sur la table aujourd'hui et qui est mes salvateurs, la question et la réflexion autour du consentement, etc., à l'époque, ces réflexions étaient inexistantes. Et ce qu'il y avait à la place, c'était précisément le contraire, c'est-à-dire une sexualité orientée par le porno, par le fait que c'est pas mal d'insister, parce que si t'insistes et qu'elle dit oui, c'est qu'elle en avait vraiment envie et que t'as réussi à... Bref, par toutes ces choses-là que je n'ai pas vécues. Et je suis hyper content. Parce que vraiment, si j'avais rencontré la sexualité plus tôt, je pense que j'aurais pu les vivre. Je pense que j'aurais pu déployer ça, vu que ça a été mon conditionnement. Donc ça, c'est un réconfort incroyable. Dans ma vie d'homme, ouais, je dirais peut-être quelques violences d'adolescent que j'ai pu déployer parfois pour l'incarnation que je devais incarner, c'est-à-dire être un mec en quartier.
Donc là, tu parles de violence contre d'autres garçons ?
Ouais, contre d'autres garçons, ouais. Ouais, contre d'autres garçons, se battre, ouais.
Et quelle aurait été ta trajectoire si tu avais réussi à éviter ça ? Est-ce que tu penses que tu t'en serais, entre guillemets, sorti quand même ? Quel type de conséquences ça aurait pu avoir ?
Je sais pas, parce que, bon, déjà, moi, je me suis beaucoup moins battu que la plupart des gens de ma bande et de mon âge, parce que j'avais le corps qui dissuadait. Moi, je suis 1m95, en troisième, je faisais 1m92. Voilà, donc il y avait un truc qui était un peu mis sur la table. Indépendamment de moi et indépendamment de mon corps, si un jeune de quartier avait été dans l'esquive, en fait, il aurait été exclu de la bande, c'est certain. Pas avec une hostilité, mais avec, enfin, on va pas forcément l'appeler, on va pas... Il y aurait toutes ces petites choses-là qui blessent quand on est adolescent, parce qu'on a un réconfort au fait de faire partie d'un tout. Et on veut tout faire pour faire partie d'un tout. Donc on fait ces choses-là aussi.
Mais il y a une solution, du coup, pour éviter la violence sans être exclu?
Je pense que la solution, c'est de rendre, encore une fois, glamour, la sensibilité masculine, l'expression des émotions qui peuvent aussi passer par les larmes. Et c'est aussi pour ça qu'il faut jouer avec des icônes populaires. Sinon, on n'y arrivera pas. Parce que la masculinité contemporaine est aussi totalement incarnée par les icônes. Elles ont une responsabilité colossale. Et si ces icônes-là sont toujours dans la même masculinité hyper exacerbée, etc., il est clair que ça va être difficile de faire avancer les choses. Donc je pense que ça passe pas mal par les icônes, ouais, pas mal.
Merci Sikou.
Merci à toi.
C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi nous écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplainingpodcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage, Mona Dolae. À dans 15 jours pour un nouvel hors-série.